Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Et bienvenue dans ce deuxième pré-pilote de l'émission c'est le rendez-vous jeu. Je me perds complètement. Nous sommes à la BlizzCon, la convention de Blizzard, des fans de Blizzard, où il y a eu pas mal d'annonces, pas mal de choses qui ont été annoncées et présentées. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que ce podcast? Si c'est la première fois que vous écoutez, c'est une émission sur le jeu vidéo, sur les jeux vidéo, qui sera disponible toutes les deux semaines et qui va avoir pour but de parler de l'actualité, de résumer l'actualité avec un certain niveau d'analyse et qui sera un résumé de tout ce qui s'est passé dans le monde du gaming et de l'industrie du jeu vidéo toutes les deux semaines pour vous résumer tout ce qui s'est passé. Alors là, c'est pas encore vraiment les épisodes réguliers. La semaine dernière, on a fait un épisode qui résumait l'état de l'industrie en parlant de toutes les plateformes de jeux qui existaient. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé à la BlizzCon et à partir des épisodes suivants, on aura des épisodes plus normaux, entre guillemets. Si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les jeux Blizzard, je vous recommanderais d'attendre les épisodes qui vont venir ensuite, parce que celui-là risque de ne pas être vraiment pour vous. Mais pour ceux qui sont intéressés par les jeux Blizzard, et je sais qu'il y en a beaucoup, puisque c'est une société qui est extrêmement populaire et extrêmement prolifique, je pense que cet épisode pourra vous intéresser. On va parler de tous les jeux qui ont des choses nouvelles qui ont été annoncées. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça aussi. Petit morceau d'information aussi important pour être éthiquement validé. Je dois préciser que j'étais jusqu'à il y a très peu de temps un employé de la société. Par contre, il y a pas mal de choses que j'ai découvert ici, comme tout le monde, et en particulier l'annonce du nouveau jeu. J'en avais bien sûr un petit peu entendu parler, mais j'ai pu y jouer pour la première fois ici. Je sais que certains d'entre vous, de mes co-animateurs, ont pu y jouer aussi. On va en parler donc au cours de l'émission. On va commencer par d'autres jeux, c'est-à-dire Hearthstone, Heroes of the Storm, StarCraft 2. On va aussi parler du trailer exclusif du film Warcraft, que j'ai eu la chance de découvrir il y a quelques minutes à peine. Et ensuite, on viendra à Overwatch, le gros morceau de la conférence. Pour m'accompagner dans cette aventure podcastique, j'ai trois experts du monde Blizzard, à commencer par mon vieux camarade des sites de fans de Blizzard, c'est-à-dire Julien de Judge Hip. On prononce Judge Hip et pas Judge Hype, dont certains amateurs de podcast du podcast Azeroth.fr d'ailleurs se souviendront, puisqu'on avait déjà fait quelques émissions ensemble, notamment à la BlizzCon et à la WWI. Ça va Julien? Fait longtemps?
Très bien, ça fait super longtemps. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci pour l'invitation.
Bah écoute, avec plaisir. Je sais que quand on parle de Blizzard en France, en français plutôt, il y a une personne à laquelle on doit penser, c'est Julien. Donc merci d'être là.
D'accord avec toi.
Sur le site judgehip.com, H-Y-P-E. On a aussi Emmanuel qui est un camarade de jeu de Julien et qui est généralement là pour les BlizzCon aussi et qui lui aussi est assez à fond dans les jeux Blizzard. Tu vas bien Emmanuel? On avait déjà fait des émissions ensemble aussi
À la BlizzCon d'ailleurs. Ouais, ça va super, vraiment très content d'être là et merci pour l'invitation.
Bah écoute, merci d'être là. Excité de ce que t'as entendu dans cette...
Complètement, je suis comme un fou. J'ai envie d'enchaîner avec la deuxième journée. Là c'est super.
Il est toujours très excité.
Elle arrivera bien assez tôt cette deuxième journée. Et enfin, on a Damien. Damien que certains fans de World of Warcraft connaîtront bien. Enfin bien, ils connaîtront son travail plutôt, puisque c'est la personne qui est responsable du site Icy Veins, qui est en anglais, et qui est un site de stratégie et de guide sur l'univers de World of Warcraft et aussi d'autres jeux. Et qui a fait sa première apparition dans un podcast, je crois.
Oui, c'est tout à fait correct. C'est la première fois que je suis dans un podcast, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, merci pour l'invitation.
Bah écoute, avec plaisir là encore. Je suis vraiment heureux d'avoir des gens aussi au fait de l'actualité Blizzard et des détails de tous les jeux. Avec moi aujourd'hui pour commenter tout ce qui s'est passé à cette BlizzCon. Alors, on va commencer par un jeu qui a été annoncé il y a 2 ans environ, 1 an et demi, et qui depuis a gagné énormément en popularité. C'est le jeu Hearthstone, qui est un jeu de cartes à collectionner, qui a été lancé officiellement, dont la bêta s'est terminée en, je crois, février ou mars 2014 de cette année, et qui a eu de nouvelles cartes qui sont arrivées en août, juillet-août, avec l'aventure de Naxxramas. Et là, on a eu l'annonce de la première vraie extension qui va amener plus de 120 nouvelles cartes. Cette extension s'appelle Goblins vs Gnomes, donc qui met en scène des races du jeu Warcraft, des jeux Warcraft et World of Warcraft, qui sont pleins de petites inventions bizarres, mécaniques, steampunk un petit peu. Et donc, il y aura plus de 120 cartes dans cette extension. Elle sera lancée en décembre et on a appris aussi que la version Android de ce jeu sera également disponible en décembre. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer un petit peu à cette nouvelle version ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça amène ? Je crois que Damien a fait quelques parties de Hearthstone avec l'extension.
Oui, j'ai fait quelques parties. Alors, donc on n'avait pas accès à toutes les cartes. Hein. On avait deux decks qui avaient été faits,
préconstruits
quoi, dans le client. Donc on pouvait pas les changer ni rien. Et c'était des grands qui avaient beaucoup de cartes, vraiment axées autour des gobelins et des gnomes. Donc je sais pas s'il y aura d'autres cartes, plus génériques dans l'extension.
Ouais.
Et j'espère qu'il n'y aura pas que des cartes comme ça parce que elles sont vraiment c'est des cartes, donc alors vous avez ce qu'ils appellent les cartes mecs, en fait c'est un nouveau type de créature de mignon, je sais pas comment on dit en français, donc parce que Icy Veins c'est quoi en anglais, je connais pas du tout le vocabulaire des jeux Blizzard en
c'est
français,
c'est pas grave, on a l'habitude dans mes émissions.
donc c'est un nouveau type de créature et tous les nouveaux sorts sont axés en fait pour les buffer,
avec des améliorations, ouais, pour ces cartes,
des cartes entre elles ont beaucoup d'interactions à la manière un peu des Murlocs dès le début de Hearthstone, et elles sont vraiment, enfin c'est vraiment des cartes très fortes, j'ai trouvé.
Ouais. Est-ce que ça change la manière de jouer ? Est-ce qu'il y a des nouvelles mécaniques ?
Ouais, il y a des nouvelles mécaniques. Genre, il y avait une carte qui permet. Vous la posez
sur le tapis de jeu.
On la joue, quoi. Et ça donne, par exemple, aléatoirement à tous les minions, soit taunt. Comment on dit taunt ?
Provocation.
Voilà. Wind Fury, c'est quoi ?
Bah, Wind Fury, je pense. Fury, voilà. Fury des vents, ouais.
Je sais plus, comme ça un effet aléatoire à toutes vos cartes. Donc quand vous avez 5 ou 6 cartes sur le. Enfin 5 ou 6 minions ou créatures sur la board, ça a un effet assez dévastateur. C'est vraiment une carte puissante. Ou alors il y a une nouvelle mécanique, c'est de donner moins d'attaques par exemple. D'ailleurs, je me suis fait voir, j'ai joué à la carte pensant donner plus de attaques à mon minion et je suis retrouvé avec 1 d'attaque. Alors du coup, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Non, donc il y a des.
Est-ce que l'esprit des gobelins et des gnomes du jeu World of Warcraft est bien retranscrit, c'est-à-dire des inventions bizarres
vraiment...
qui marchent une fois sur deux, quoi. C'est un petit peu.
Ah ouais, il y a notamment la carte qui vous permet, quand elle meurt, elle permet de jouer, une carte légendaire au hasard. Alors si vous n'avez pas de chance, ça va être une carte vraiment une petite
pas
carte,
génial,
genre
je sais
pas, Blood Mage Thanos par exemple, je sais pas comment on dit en français. Ou alors ça peut être ce qui m'est arrivé. C'est Kel'Thuzad qui revient et donc qui ressuscite la carte qui vient de mourir, et du coup vous pouvez autour d'après avoir une autre légendaire qui vient quand la carte meurt de nouveau. Enfin, donc là vraiment c'est kill to double, mais ça peut être dévastateur.
C'est un petit peu le truc, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va arriver. Bon, ceci dit, j'imagine quand même que à partir du moment où on connaît les cartes, là tu découvrais beaucoup de choses.
Voilà.
À partir du moment où on connaît les cartes, il y a beaucoup de stratégies, de nouvelles stratégies qui se mettent en place quand même.
Je pense, moi, en connaissant toutes les cartes déjà existantes, j'ai eu beaucoup de mal à jouer les nouveaux decks, en fait, puisque on ne sait pas ce que l'adversaire a, et c'était vraiment...
C'est une des choses que les joueurs de ce jeu attendaient, puisque ça fait maintenant presque un an qu'ils jouent avec en fait les mêmes cartes. Même si le jeu évolue toujours, on trouve des nouvelles techniques, beaucoup de gens attendaient vraiment un raz-de-marée de nouvelles cartes qui changeraient complètement les types de jeux et les stratégies et tout ça. Donc,
Là, c'est vraiment le cas. Donc, je crois qu'on avait deux decks, il y avait un mage et puis un prêtre. Et c'était vraiment une façon de jouer. Qui était différente. Alors ouais, je sais pas si c'est parce que on était tellement obnubilés par les nouvelles cartes que on a un peu oublié la façon de jouer les classes.
Ouais.
Mais les cartes en fait sont tellement fortes que je pense que ça va vraiment changer la façon de jouer quoi. D'ailleurs c'est normal, faut quand même donner envie aux gens d'acheter de nouvelles cartes, donc il faut qu'elles soient.
C'est sûr. D'un autre côté, souvent on voit quand on découvre des nouvelles cartes les côtés hyper positifs, et puis au fur et à mesure où on apprend à les contrer aussi. Donc c'est vrai que ça change les stratégies souvent, et puis au bout d'un moment on comprend comment les contrer, et puis on a des nouveaux types de decks qui arrivent, etc., etc. Bon, ça on pourra le découvrir bientôt puisque le jeu est lancé en décembre. Si d'autres personnes veulent dire des choses, vous m'interrompez, n'hésitez pas. Ouais, Julien.
Je voulais demander à Damien, Blizzard a donné des indications sur le prix ?
Non, moi j'en ai pas vu.
Donc ça, on découvrira le modèle d'affaires de ces nouvelles cartes, je pense un peu plus proche du lancement. Heroes of the Storm, donc le MOBA, le team brawler de Blizzard, où on a découvert donc trois nouveaux personnages, Jaina, le mage, Troll, le chaman, tous les deux des personnages emblématiques de la Horde et de l'Alliance, et puis un personnage qui sortait un petit peu de nulle part, qui est les Lost Vikings, qui est un jeu de Blizzard il y a bien longtemps, et qui est vraiment bizarre comme personnage à jouer, parce que c'est en fait trois personnages, c'est des nains vikings qui sont effectivement trois personnages différents. Alors, est-ce qu'ils restent toujours en groupe ou est-ce que c'est carrément trois personnages différents ? Quelqu'un a joué ces personnages-là ? Vous avez découvert ?
Moi, je n'ai pas joué, mais j'ai vu la vidéo et effectivement, splitter les trois personnages pour jouer. Donc, on peut en envoyer un d'un côté, un de l'autre. Et il prenait l'exemple de la carte avec le dragon à récupérer au milieu, où on pouvait aller placer un personnage sur un hôtel au nord, l'autre au sud, et puis récupérer le dragon, même si dans la pratique ce sera pas tellement faisable.
Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Mais ouais, donc c'est vraiment encore une fois des types de personnages complètement bizarres et différents qui se jouent de manière très différente de ce qu'on peut connaître dans le jeu jusque là. On a aussi deux nouveaux battlegrounds, deux champs de bataille, donc deux nouvelles cartes. Il y a aussi le rank play qui a été annoncé, et une chose qui va intéresser les gens qui veulent jouer à ce jeu mais qui n'y ont pas encore accès, c'est la bêta fermée qui commencera le 13 janvier. Donc une nouvelle étape dans le développement du jeu, on passe de l'alpha à la bêta le 13 janvier. D'autres choses sur... Oui, vas-y Emmanuel.
Oui, j'ai vu un moment rapidement sur la vidéo qu'il y avait une sorte de ranking de groupe, quelque chose comme ça. Je sais pas si quelqu'un a compris ce que c'était, mais je me suis posé des questions. J'ai fait waouh, ça a l'air assez amusant.
Ouais, donc un ranking de groupe, je t'avoue que j'ai... Alors, ce qu'il faut savoir pour les gens qui n'ont jamais été à la BlizzCon, c'est que c'est la folie totale pendant deux jours et il est vraiment impossible de tout suivre. Donc, il y a pas mal d'infos qui refont surface après le premier jour ou après le deuxième jour, en allant explorer toutes les informations qu'on a vues un petit peu partout. Bon, généralement, Judge Heap fait beaucoup de ce travail-là. Donc, sur le site Judge Heap, on peut trouver toutes ces informations. Mais il y en a des nouvelles qui ressortent tout le temps parce que c'est tellement dense que c'est difficile de tout suivre. Ça on s'en souvient bien. Ayant nous-mêmes fait beaucoup de BlizzCon, on a l'habitude, quoi. Donc, il y a beaucoup de points d'interrogation aussi qui ne disparaîtront que dans les jours à venir.
Il y a un petit élément que j'ai envie de préciser sur Heroes of the Storm, c'est que les joueurs qui sont actuellement sur l'alpha ont régulièrement le problème de voir un joueur de l'équipe qui s'en va parce qu'il n'a pas envie de terminer la partie, parce que pour lui la partie est perdue d'avance. Et Blizzard semble avoir trouvé une solution, en tout cas va expérimenter quelque chose pour les fameux leavers.
Ouais, les gens qui partent.
Voilà, les gens qui partent. Et c'est assez amusant puisqu'en fait les gens qui vont quitter la partie avant son terme vont être placés dans un groupe de leavers. Et donc en fait ils vont se retrouver catégorisés. Hop, toi tu quittes les parties régulièrement, alors puisque tu aimes ce style de jeu, eh bien tes prochaines parties tu seras placé dans un groupe avec des gens qui quittent les parties également.
D'accord.
Et donc si on arrête de quitter les parties, eh bien hop,
on reviendra
dans le groupe.
Donc, évidemment, c'est un bon moyen de les pousser à ne plus quitter les parties, parce que c'est pas marrant d'être dans des parties où les gens s'en vont, quoi.
Exactement. Donc ils vont expérimenter ça et on verra bien ce que ça
donne.
Ouais,
on verra ce que ça donne.
C'est un système qui existe sur d'autres jeux et il a vraiment fait ses preuves. Hein. Ça marche bien. Ouais. On finit par jouer des parties où les joueurs sont beaucoup plus sérieux, ce qui est agréable parce que forcément, ça casse un petit peu toute le plaisir de jouer quand quelqu'un s'en va trop tôt.
D'accord. StarCraft 2, la troisième partie de StarCraft 2, en fait, Legacy of the Void, qui est la partie... Alors, on avait eu la première partie, le premier jeu avec les Terrans, le deuxième jeu avec les Zergs, et maintenant, le troisième jeu avec les Protoss. Au niveau du jeu en lui-même, déjà, il y a une chose intéressante à préciser, c'est que ça sera un jeu qui ne nécessitera pas les précédents pour pouvoir y jouer. Contrairement à Heart of the Swarm, je suis pas le premier à faire cette erreur, qui nécessitait Wings of Liberty pour jouer, là on peut acheter celui-là et jouer la campagne des Protoss sans avoir les autres jeux. Et bien sûr jouer au multijoueur aussi. Alors je sais pas comment ça marchera pour les unités qui sont pas disponibles, mais j'imagine qu'on aura le jeu multijoueur tout court, quoi. Ça c'est ce que j'imagine. Vous avez eu l'occasion de voir un petit peu plus sur Legacy of the Void. C'est peut-être l'annonce la moins excitante parce que c'est une chose, on savait déjà que ça existait. Pour les gens qui sont très fans de StarCraft, c'est un gros événement. Vous avez eu la partie joueur solo a l'air très sympa. Il y avait un trailer comme toujours assez il nous disait que on va avoir la révélation de tous les secrets, les histoires d'Exel Naga, tout ça, tout ce dont on se demande et qui a été un petit peu repoussé au fur et à mesure des extensions. Donc pour les gens qui aiment bien la partie single player, la partie jeu solo, ils auront l'histoire à suivre.
Oui, c'est ça qui va être intéressant effectivement pour ceux qui ont joué la campagne solo. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie des joueurs qui ne jouent pas en multijoueur de peur de se faire démonter.
C'est ça.
Qui jouent la campagne solo, justement, ils vont avoir la fin de l'histoire de chaque personnage emblématique de StarCraft.
Ouais. Oui,
tout à fait. Et puis, j'ai assisté à une partie de la conférence sur le solo. Et c'est vrai que les cartes ont l'air vraiment belles. Les différentes planètes ont des environnements très différents les uns des autres. Et ça donne vraiment, vraiment envie d'y jouer. C'est sûr.
D'accord. Peut-être avant de passer donc à Overwatch, qui est le gros morceau, le trailer, la bande-annonce, enfin une sorte de pré-bande-annonce du film Warcraft qui a été présenté sans qu'on puisse enregistrer quoi que ce soit, bien sûr, comme ça avait été le cas à la Comic-Con il y a quelques mois, et qui était donc présenté uniquement pour les gens qui étaient présents à la BlizzCon. Je crois que je suis le seul à l'avoir vu. Hein. Vous avez pas. Il y avait une queue super longue. Je me suis dit, bon, je vais y aller, je vais le faire pour pouvoir en parler. Donc, on a vu les premières images qui n'étaient pas des images finales du film. La chose qui m'a marqué, c'est à quel point les images sont à mi-chemin entre des images de synthèse et des images réaliste. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'ils cherchent le photoréalisme à tout prix. Ce qui est pas si surprenant que ça, parce que les créatures qu'on a dans l'univers de Warcraft sont très difficiles à rendre de manière photoréaliste. C'est-à-dire que il y a cette ambiance de fantasy, d'heroic fantasy dans les images qui se ressentent. C'est difficile à expliquer. C'est un visuel assez unique. Alors, dans la majorité de la bande-annonce ou des images qu'on a vues, le rendu n'était pas final, donc on avait un petit peu plus cette impression d'image de synthèse, mais on a aussi vu des images d'un orc de Durotan, qui est l'un des personnages principaux de l'histoire de Warcraft, de Durotan fini. La manière dont ça allait être représenté, une fois que ça serait vraiment terminé, et c'était assez impressionnant. Là, on avait effectivement une qualité d'image assez... Enfin, comme on pourrait s'y attendre, hein, assez aboutie, qui était vraiment hyper, hyper supra détaillée, mais toujours pas réaliste, parce que comment rendre un orc de manière réaliste, c'est compliqué.
Pendant la conférence du film Warcraft, le réalisateur disait que ça serait... la qualité des effets spéciaux serait à mi-chemin entre Avatar et Le Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'on ressent bien ça dans ce que tu dis, dans l'aperçu.
Ouais, c'est-à-dire qu'Avatar, on sent qu'ils ont vraiment cherché le photoréalisme à tout prix, dans des univers qui n'existent pas, bien sûr, mais essayer de les représenter tels qu'ils seraient s'ils existaient. Là, c'est pas le cas. on a cette encore une fois à mi-chemin. Alors je sais pas ce que ça donnera quand ça sera vraiment le rendu final pour tout, mais là on avait vraiment cette impression que l'intention artistique était de garder cette impression de monde irréel, quoi, de quelque chose qui n'existe pas, même si c'est hyper méga détaillé, ça reste quelque chose de différent. Donc bon, c'était assez intéressant. Je suis curieux de voir ce que ça donnera, évidemment, une fois que ça arrivera dans les salles. Il sortira, c'est mars 2016, ouais, si 2016. Je ne m'abuse.
Et ce qu'ils ont dit aussi pendant la conférence qui était intéressante, je te laisserai parler, Julien, après, hein, pas de problème.
Pas de soucis, je t'en prie.
Faut faire gaffe quand on interrompt Julien, hein, ça peut avoir des lourdes conséquences.
Ah oui, surtout sur moi, oui.
T'es viré.
Mince, zut, je pars tout de suite.
Non, à la fin du podcast.
Ah bah d'accord, ok.
Non, bon, j'ai encore besoin de lui.
Non, il disait que grosso modo, ce qu'on a compris, c'est que les séances de tournage étaient terminées. Donc maintenant, ils sont vraiment sur la partie effets spéciaux, montage additionnel, etc. Ce qui est intéressant à savoir. Donc ça dure quand même un an encore, cette période. Ça, ouais. C'est assez incroyable. Mais bon, a priori, Chris Metzen a vu tout le film de A à Z sans tous les effets spéciaux, etc.
Chris Metzen, la personne qui gère toute l'histoire des univers Blizzard. Ouais. Donc voilà pour la bande-annonce, ou pas la bande-annonce, mais les images qu'on a pu voir du film Warcraft. Et enfin, le gros morceau de cette BlizzCon, l'annonce d'un nouveau jeu qui s'appelle Overwatch. Et dont on avait entendu des rumeurs avec des marques déposées qui avaient été déposées avec ce nom-là. Et c'est donc un FPS, un jeu de tir, qui rentrera en bêta assez vite pour un jeu Blizzard, c'est-à-dire en 2015, il devrait arriver en bêta. C'est un FPS, un jeu de tir multijoueur par équipe, qui a vraiment une approche typique des jeux Blizzard, c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre un type de jeu qu'ils aiment beaucoup et d'en tirer le fun, d'en tirer l'amusement facile et de l'amener, de l'exposer au plus grand nombre. Alors, pour un jeu de type FPS, c'est difficile parce que c'est vraiment un jeu qui requiert une grande adresse de jeux vidéo, quoi, une vraie maîtrise. Et là, le grand pari, c'est de savoir s'ils vont y arriver. Quelques précisions en plus, il n'y a pas de jeux de type combat à mort, de deathmatch. C'est uniquement des jeux avec des objectifs, des parties avec des objectifs par équipe. On a aussi différents types de héros qu'on peut jouer. Là, ils en présentaient 12. On a vu qu'il y en aurait plus que ça. Et avant de continuer sur les détails, je vais vous demander qui parmi vous a eu l'occasion d'essayer le jeu. Damien, je crois.
Oui, j'ai pas mal joué en salle presse.
Damien et moi avons joué au jeu. Il y a franchement pas grand monde qui a joué encore aujourd'hui. Quelles sont tes premières impressions sur les quelques parties que tu as pu faire?
J'ai été très agréablement surpris. Donc c'est très différent des FPS traditionnels. Ça se rapproche plus du Team Fortress, avec un nombre fixe de joueurs en fait par équipe, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'on était 6 contre 6 et c'était vraiment, enfin, il fallait qu'on soit 6 dans chaque équipe, quoi. Sinon on pouvait pas démarrer la partie. Et alors c'est vraiment
tu en perds tes mots.
J'en perds. Non, c'est donc on a trois sorts en quelque sorte. On peut tirer ou alors utiliser trois
capacités spéciales.
Trois capacités spéciales.
C'est simple.
Et c'est tout, quoi. Et après, ouais, tout repose sur la façon dont on joue avec nos partenaires, en fait, sachant que donc moi, le héros que j'ai joué, il avait eu une capacité, enfin, donc qui se recharge en fait en une minute, ou ça prend un peu de temps, et qui permet par exemple de dévoiler la position de tous les ennemis sur la carte pendant peut-être 10 secondes, quoi. Ouais. On les voit à travers les murs, et donc chaque héros a des capacités comme ça qui permettent d'aider l'équipe à atteindre des objectifs. Et
donc ça pousse au jeu en équipe, quoi. Chacun doit avoir des...
Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de score. Il y a un score individuel, mais qui ne repose pas sur le nombre de frags qu'on a fait. C'est simplement sur la façon dont on a aidé l'équipe. Enfin, ça indique en fait notre participation à l'accomplissement des objectifs de la carte dans notre équipe, quoi.
C'est, ouais, l'objectif, c'est vraiment... plus d'encourager le jeu en équipe, comme sur Heroes of the Storm, plutôt que de...
Voilà, donc c'est pas du Counter-Strike où vous avez votre nombre. J'ai tant de frags, tant de morts. Non, là c'est vraiment... le jeu axé sur l'équipe.
Ils insistaient beaucoup sur cet aspect vraiment jeu en équipe, effectivement, et ils disaient que l'idée était de faire les objectifs ensemble et que c'était ça le but du jeu et pas de faire de tuer tout le monde quoi, de tuer l'équipe adverse.
C'est un jeu où on respawn quasiment tout de suite. Hein. On respawn quasiment tout de suite. Il y a pas un round. Voilà, on joue 5 contre 5 et puis quand tout le monde est mort ou quand une équipe a tué toute l'autre, c'est terminé.
Non, on revient tout de suite.
Il y a un temps limite quoi sur chaque carte pour l'accomplissement de l'objectif en fait. Donc en général, c'est une équipe qui doit attaquer et l'autre qui doit défendre. Et ensuite, quand le temps s'est écoulé, si l'équipe qui attaquait a réussi à atteindre son objectif, alors elle gagne. Sinon, si l'équipe qui défendait a réussi à défendre, à ce moment-là, c'est celle-ci qui gagne.
Ouais.
Et elle est terminée, non ?
Et on a vu sur les cartes, effectivement, les objectifs sont super importants. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y avait pas un seul objectif dans la carte. C'est un petit limite scripté. C'est-à-dire que sur la carte que j'ai essayée, il y avait d'abord un endroit où il fallait prendre un point, prendre une zone. Et l'équipe qui défendait devait empêcher les gens de l'équipe adverse de le prendre. Et ensuite, ça se transformait en un type de jeu où il fallait accompagner un véhicule jusqu'à la base ennemie. Et les autres, là encore, devaient empêcher leurs ennemis d'arriver à accompagner le véhicule. Donc ça veut dire qu'on passait d'un type de jeu à un autre au sein même de la même partie. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que, effectivement, comme tu le dis, Damien, les contrôles sont hyper simples. C'est-à-dire qu'on a effectivement souvent un seul bouton de la souris qui est utilisé, c'est-à-dire pour tirer, et puis deux capacités spéciales en plus qui se rechargent toutes les 10 ou 15 secondes et une capacité ultime qui elle se recharge quand on joue au jeu et puis après il faut peut-être une minute ou deux pour la recharger. Et il y a des types de gameplay, des types de jeux que j'ai jamais vraiment vu dans des FPS. Pourtant j'aime bien les FPS, je suis pas un super méga fan mais j'en ai essayé beaucoup. Et là il y a des types de jeux qui, tu parlais de Team Fortress, c'est vrai qu'il y a une filiation assez claire avec ce jeu-là, il y a de l'inspiration c'est certain, mais ça va encore plus loin et beaucoup plus loin dans la différenciation des personnages. C'est presque, moi ça m'a fait penser à un jeu de combat dans la manière dont les personnages sont différenciés. D'un personnage à l'autre, ça ne joue pas du tout de la même manière. Un exemple que j'aime bien prendre quand j'en parle aux gens, c'est le personnage de Tracer qui a la capacité de faire des petits sauts de téléportation en avant trois fois et puis après ça se recharge en peut-être 4 secondes ou 5 secondes et donc on peut faire 3 petits sauts en avant super rapide et après on a une autre capacité qui se recharge toutes les 10 secondes qui nous permet de revenir en une sorte de retour rapide en arrière, de revenir à la position où on était 5 secondes avant. Donc on peut courir dans la carte comme un fou, 3 secondes avant, me précise Julien. On court comme un fou sur la carte, on se téléporte partout, on tire un petit peu sur les ennemis, et puis on revient derrière le coin où on avait commencé avant de sauter partout. Donc c'est un gameplay vraiment assez différent quoi.
Et encore plus amusant, ça te recharge la vie aussi. Si t'as perdu
c'est-à-dire que t'arrives, tu sautes partout, si en 3 secondes t'as perdu un petit peu de vie, bah tu reviens en arrière et t'as rechargé ta vie.
Oui, et puis enfin, on dit que c'est un shooter, mais il y a plusieurs personnages en fait qui eux shootent pas du tout. Ils ont des armes et puis enfin je crois qu'il y en a qui ont une sorte de grosse massue là avec laquelle on tape sur les autres en fait.
Ouais.
Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt là pour aider l'équipe en fait et qui fournissent des boucliers derrière lesquels on peut se cacher pour éviter les dégâts de l'équipe adverse. C'est vraiment, enfin, sont vraiment des.
Ouais, je pense qu'il y a.
C'est vraiment différent quoi. Enfin, de moi ce que je connaissais en tant que shooter.
Ouais.
En tant que...
Ouais, je pense qu'il y en a un. Il y a un personnage qui soigne. Je pense que c'est Mercy.
Oui, effectivement, j'ai été soigné.
Qui permet de ressusciter l'équipe entière, c'est pas ça?
Aussi,
il me semble que je suis mort à un moment et j'ai été ressuscité sur place, donc c'était assez sympa. J'ai pas eu besoin de refaire tout le chemin à pied.
Ce sur quoi ils ont vachement insisté, c'est cet aspect de différents rôles. Il y a 4 rôles différents et chaque personnage rentre dans l'un de ces rôles. Alors, il y a attaque, support,
défense
et tank. Et tant que voilà, donc mais je le savais, hein. J'allais le dire.
On l'a tous dit
donc,
ensemble.
C'est ça. Et donc évidemment, avec
là,
une équipe
en
de
support.
6, avec une équipe de 6, il faudrait au moins avoir un personnage de chaque rôle, j'imagine. Encore que c'est difficile à savoir comme ça. J'ai l'impression aussi que ça se concentre un petit peu plus sur la stratégie que doit organiser l'équipe autour de l'accomplissement de l'objectif que vraiment le fait d'aller tuer les autres et une sorte de jeu hyper frénétique où on fonce partout et puis on fonce dans le tas et puis on doit tuer tous les autres. Là, dans les démos qu'ils montraient, les jeux, les parties qu'ils montraient, qu'ils avaient montrées en exemple, en fait, il y avait un petit peu plus de, on va pas dire stratégie non plus, mais de, on prend son temps pour se dire, on va pas foncer en 2 secondes au milieu de la, du combat, on va prendre 5 ou 10 secondes pour dire, ah ok, donc lui il est là, moi je vais passer par là, et il y a d'ailleurs des personnages, Reaper qui est une sorte de personnage qui utilise l'ombre, il a une capacité qui lui permet de mettre un marqueur pour dire où il veut se téléporter, c'est assez lent, et puis il met 3 secondes à se téléporter, ou 2 secondes, mais par contre on le voit pas du tout et il peut se déplacer un petit peu dans l'ombre quoi, de cette manière. Il y a des personnages qui, enfin bref, il y a vraiment plein de types de personnages différents. D'autres impressions sur le jeu, vous avez peut-être ouais. vu des panels.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'encourager les auditeurs à aller découvrir la cinématique qui ouais. qui va donner une impression sur le jeu totalement différente ouais. de ce qu'on a pu voir avec les autres jeux Blizzard. Et d'ailleurs, Chris Metzen a laissé sous-entendre que ce genre de cinématique pourrait continuer pour faire avancer l'histoire, ce qui éventuellement peut laisser penser qu'on aura droit soit à peut-être des courts-métrages d'animation de la part de Blizzard à ce sujet-là, puisqu'ils ont l'air de vouloir faire avancer l'histoire du jeu...
En dehors du jeu,
voilà,
mais ouais.
ailleurs que dans le jeu lui-même.
C'est vrai qu'il a mentionné ça plusieurs fois dans les conférences que j'ai vues. Ils veulent vraiment créer l'univers du jeu en dehors du jeu lui-même. Alors, on peut imaginer n'importe quoi. Il peut y avoir des BD, des petites animations, effectivement, toutes sortes de choses. Et je crois que c'est vraiment une intention claire de faire évoluer ça comme ça.
Ouais, et puis, on sent que, un petit peu comme dans les autres jeux également de la société, on retrouve l'humour. Dans certaines scènes de la cinématique, donc j'encourage vraiment tout le monde à la regarder.
Je spoil un peu, mais j'imagine que les gens qui écoutent cette émission sont assez intéressés par les jeux Blizzard pour l'avoir vu déjà la plupart, mais il y a un moment où les personnages sont dans un musée en train de se battre et ils sont en train de tout casser et on coupe sur le garde qui est censé surveiller ce qui se passe dans le musée et en fait il a le dos tourné aux écrans parce qu'il est en train de jouer à Hearthstone sur sa tablette super futuriste et ça coupe un petit peu et puis on entend la musique de Hearthstone, il est en train de jouer et on a vu un style graphique aussi très différent qui est beaucoup plus cartoon, limite manga en fonction des différents personnages et là encore, un petit peu de filiation avec Team Fortress de Valve et d'autres jeux qui ont adopté ce style graphique. Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué, enfin, ce qui m'a frappé dans la cinématique de présentation, c'est la ressemblance avec les films d'animation de Pixar. Je pense que, à mon sens, c'était très clair, quoi. Les deux personnages qu'on a vus, les deux enfants qui se baladaient dans le musée, c'était clairement du Pixar, j'ai trouvé.
Ah oui, c'est vraiment hallucinant.
Ouais.
C'est bluffant visuellement, c'est très très impressionnant. Et ça va encourager encore plus les joueurs à dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'attend Blizzard pour nous sortir d'animation ou quelque chose comme ça.
Oui, exactement, vrai. Mais je me demande si Chris Metzen n'essayait pas de souffler un peu qu'ils vont peut-être pousser plus loin que sur les courts-métrages. Je me demande, il n'y a rien qui a été dit, hein. C'est que de la supposition, ouais. mais... C'était quand même un gros indice entre guillemets ouais. qu'il a donné.
Et on n'a pas d'informations sur le modèle économique non plus, donc on ne sait pas si ça sera un jeu normal, enfin en vente qu'on achète et voilà, ou ça sera un free to play. Avec le nombre de héros, je pense qu'il ne sera pas impossible. Enfin, c'est clairement une avenue qu'il pourrait explorer. Il y a quand même une grosse question qu'on peut se poser parce que là, on est sous le charme de la BlizzCon et c'est vrai qu'on a c'est facile de se laisser emporter par l'enthousiasme dans ce type de d'événement. J'ai envie de poser la question, est-ce que c'est quelque chose que Blizzard peut réussir? Alors, un jeu de tir, je pense que oui, ils peuvent réussir un jeu de tir, mais est-ce qu'ils peuvent réussir un jeu de tir qui serait accessible vraiment, pas à n'importe qui, mais à un grand nombre de joueurs qui n'étaient pas traditionnellement séduits par les jeux de tir? Parce que c'est quand même un gros pari, quoi. Est-ce que c'est, à votre avis, bon, on peut pas savoir, mais à votre avis, est-ce que ça serait possible de ce que vous avez vu, de ce que vous avez essayé, puis de ce que vous, vous savez en général de
Personnellement, je pense que Blizzard peut réussir. Alors, vont-ils réussir? Ça, on le découvrira dans les mois à venir. Mais je pense qu'ils ont déjà maintes fois prouvé qu'ils pouvaient nous intéresser à des types de jeux auxquels on penserait pas spécialement, notamment avec Hearthstone.
C'est vrai.
Donc, surtout que l'univers a l'air relativement facile d'accès et,
ouais,
et
c'est coloré,
c'est joli,
c'est long, c'est,
voilà,
comique,
c'est agréable à regarder, donc ça, et ça donne envie d'y jouer déjà.
Ouais.
Donc, oui, non, vas-y, à toi.
Rappelle-toi avec World of Warcraft aussi, quand ils sont arrivés, ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites, on a EverQuest à côté, Dark Age of Camelot, on a plein de jeux, vous allez clairement avoir des problèmes, et pas du tout, au vu du statut du jeu aujourd'hui, clairement ça a été un succès, donc ils sont capables de faire une nouvelle franchise dans un nouveau style de jeu et de réussir, on verra évidemment dans le futur.
Il faudra voir si l'univers est aussi fort que ne le sont StarCraft, WarCraft et Diablo, mais pour ça il faudra lui laisser un peu de temps également,
je pense. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Un avis sur la chose, Damien, la possibilité d'accessibilité de ce jeu.
J'ai trouvé le jeu très accessible, hein. C'est trois capacités et puis un bouton de tir, c'est pas trop compliqué. Et surtout après, je pense que le jeu se démarque beaucoup des concurrents. Enfin, si on pense aux jeux de tir, il y a CSGO ou Call of Duty qui sont complètement différents. Donc je pense que ça peut réussir, hein. Surtout que je pense que le public visé est différent. C'est-à-dire que... comment dire, c'est... J'ai pas envie de dire une bêtise, mais sur Call of Duty ou CSGO, en fait, ce sont des jeux où vous avez des gens qui viennent pour jouer et pour faire leur partie. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils jouent et ils veulent faire leur score, peu importe le reste de l'équipe. Alors que là, on a un jeu qui est complètement axé sur le jeu en équipe. Et je pense que ça va attirer des personnes différentes, en fait, qui ont envie de jouer avec d'autres personnes pour faire quelque chose. Et sont des gens à qui actuellement il manque un jeu référence. Et donc pourquoi pas.
Je pense vraiment que t'as raison, parce que c'est un petit peu comme avec Hearthstone, qui a amené dans les jeux de cartes à collectionner plein de gens qui n'avaient jamais touché à ce genre de jeu. Idem avec World of Warcraft il y a 10 ans, où énormément de gens n'avaient jamais joué à un MMO et puis se sont mis à WoW et ont peut-être arrêté, mais ne se sont pas spécialement remis à un MMO derrière. Donc effectivement, je pense que ça peut amener beaucoup de nouveaux joueurs sur ce type de jeu.
Il y a un truc aussi que j'ai oublié de préciser dans les contrôles du jeu, c'est en fait on n'a pas besoin de recharger l'arme qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on tire, on tire, on tire, et puis ensuite qu'on n'a plus de balles, et ben ça recharge tout seul. Et ça peut sembler être quelque chose d'un détail. Mais à mon sens, ça fait partie de la manière dont Blizzard modifie le gameplay pour en enlever les éléments un petit peu qui sont là mécaniquement, par principe, et qui ne servent pas le plaisir de jeu, mais qui sont... et donc, en les enlevant et en gardant quand même l'idée qu'on a un chargeur, et puis une fois qu'il est vide, ben, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, mais dans les autres jeux, c'est mécanique. Tu charges, tu tires, tu tires, tu tires, et puis tu charges, et puis tu le fais à chaque fois. C'est pas que ça pose un problème. Enfin, oui, ça peut poser des problèmes, mais je veux dire, c'est pas un élément de gameplay central. Et de la même manière qu'ils ont simplifié les gameplays pour des jeux comme Hearthstone ou comme World of Warcraft, là, ce type de petites touches, j'ai l'impression que ça peut contribuer effectivement à faire ressortir le fun et éliminer les parties plus pénibles du jeu. Alors là, c'est un tout petit truc, mais c'est indicatif de la philosophie avec laquelle ils le développent. Une chose qui m'inquiète un petit peu, par contre, c'est que c'est clairement un jeu auquel il faut jouer en équipe, auquel, a priori, j'imagine que pour avoir une bonne équipe, il faut différents rôles. Et ils veulent s'adresser à des gens qui ne sont pas traditionnellement des joueurs hyper focalisés sur les jeux de tir, ou aussi à des joueurs qui ne sont pas hyper focalisés sur les jeux de tir. Est-ce qu'il va être possible de créer des parties et un écosystème où les gens vont naturellement, où le jeu va naturellement mettre ensemble des joueurs qui viennent de enfin qui ne sont pas des joueurs qui sont là pour jouer ensemble, parce que c'est vrai que même sur des jeux comme Destiny par exemple, quand on doit faire une partie à 3 et qu'il n'y a pas le système de matchmaking pour réunir les joueurs ensemble, bah c'est compliqué de retrouver des amis, parfois pour moi par exemple qui ne suis pas un joueur qui passe toute ma vie sur Destiny.
Tu n'as pas d'amis.
C'est ça. Pour réunir 6 personnes, ça va être difficile, quoi. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir dans l'écosystème suffisamment de... Est-ce que ça peut être suffisamment bien fait pour réunir 6 personnes qui vont travailler ensemble alors qu'elles ne se connaissent pas? Là, j'ai un petit doute quand même. Je ne sais pas si ça sera possible, quoi. Ouais. Et du coup, si les joueurs ne travaillent pas ensemble, ça ne sera pas fun à jouer. Donc, c'est compliqué à faire. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Il y a mécaniquement dans le gameplay des moyens de faire ça, sans doute. Mais c'est quand même un gros défi qui se pose à eux-mêmes, quoi.
Je pense qu'il y a une sorte de défi à Blizzard parce que on sait qu'ils sont bons sur pour regrouper des gens pour faire une activité. On peut penser à la recherche de groupes
sur Warcraft.
Sur Warcraft, ouais. Exactement. Ils arrivent aussi à matcher des gens relativement bien dans StarCraft ou dans Hearthstone. Le problème là, c'est qu'il faut avoir.
Tiens, dans StarCraft, j'ai oublié de parler du mode Archon où on joue on joue à deux. La même faction, la même équipe dans Legacy of the Void, qui a un mode un petit peu bizarre et marrant où on va contrôler en fait la même base à deux. C'est bon, bref, c'est pardon.
Et oui, donc là ils vont devoir réussir à regrouper des personnes qui ont à peu près le même niveau, puisque a priori tu vas pas toujours avoir un groupe de 5 personnes avec toi pour jouer. Enfin,
c'est
il y a
ça,
des gens,
ouais,
qui l'ont, c'est sûr, hein, mais
oui, ils ont l'air de aussi d'ailleurs de la présentation de la partie, c'était un shoutcast, donc comme ça aurait pu l'être pour un jeu d'e-sport. Donc je pense que, sans être certain que ça va se développer en e-sport, clairement ils se disent on n'est pas contre, quoi.
Tout à fait, je suis d'accord.
Mais donc,
avec
oui,
toi.
C'est pas uniquement les joueurs occasionnels ou qui sont pas intéressés par ce type de jeu. Je pense qu'il y a une intention aussi d'intéresser les gens qui aiment bien. Mais pardon, j'arrête pas de t'interrompre.
Non, il y a aucun souci. Non, mais donc, du coup, ils vont avoir ce challenge de dire on va devoir réussir à regrouper des gens qui aiment jouer des rôles différents. Pour former des équipes qui vont se combattre contre une autre équipe qui a été formée de la même façon. Alors, j'ai vu sur Evolve, qui est un jeu qui est en train d'être. Qui va bientôt sortir, là, normalement l'année prochaine.
Oui, on joue à 4 contre 1, en fait. C'est un perso qui joue le monstre et une équipe de chasseurs qui doit chasser le monstre.
Exactement. Et dans le jeu, tu peux dire, voici les rôles que je préfère jouer, dans l'ordre dans lesquels tu préfères jouer. Et du coup, ils vont essayer de te trouver une équipe qui a besoin du rôle que tu préfères. Et s'ils ne trouvent pas, ils passent au deuxième. Ouais. Et ça serait peut-être une possibilité pour Blizzard de dire, tu sélectionnes tes héros que tu as envie de jouer. Et puis... on va essayer de te trouver un groupe.
Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le fait que les gens se mettent tout à coup à jouer ensemble et à jouer pour l'objectif de la partie. Parce que, comme tu le disais, Damien, souvent dans les jeux de tir, dans les FPS classiques, bien sûr, il y a des gens qui jouent en équipe, hein, évidemment, mais souvent, les gens viennent et puis jouent pour eux. Tu l'as très bien dit. Donc, je pense qu'il y a un vrai défi là aussi et on verra s'ils peuvent réussir à le relever.
Si on y réfléchit, je pense que c'est assez similaire au problème du matchmaking dans Heroes of the Storm, en fait, où il s'agit de... Enfin, parce qu'on choisit notre héros avant que la partie commence, donc je pense qu'ils ont déjà pour ce jeu un système où ils font en sorte d'avoir dans une équipe une représentation assez large, en fait, des héros pour qu'on n'ait pas une équipe qui se retrouve avec 5 DPS purs, enfin, qui ait un peu de support, des soigneurs, etc. Et donc je pense qu'ils peuvent s'inspirer de ça pour, dans Overwatch, avoir une équipe... cohérente, quoi, de chaque côté.
Et ce qui est vraiment fun, enfin on y revient en fait, c'est fun, c'est de voir à quel point chaque personnage différent se joue différemment. Il y a vraiment un sentiment de type de gameplay complètement différent. Et ce que j'ai expliqué avec Tracer, donc la nana qui se téléporte, c'est que les capacités sont relativement simples à appréhender. Son ultime est une sorte de bombe à retardement qui se colle aux ennemis et qui ensuite explose une zone assez large. Donc ces éléments sont simples à comprendre, mais après, pour vraiment le maîtriser et le mettre en place, c'est là que ça devient complexe. Donc c'est pas la prise en main qui est complexe, c'est la stratégie derrière et l'exécution derrière. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on sait d'Overwatch. Pas mal d'optimisme, évidemment, on est au milieu du truc et on est assez enivré par tout ça. Et il faudra voir ce que ça donne concrètement dans les mois à venir quand la bêta aura commencé. plutôt positif, je pense, avec un petit peu de précaution de ma part, en tout cas, pour voir si les gens qui sont pas traditionnellement des fans de shooter seront séduits. Comme vous, je pense que c'est possible, mais c'est pas encore gagné. Un mot de la fin sur Overwatch.
Oh bah écoute, moi...
C'est la première fois qu'il présente une nouvelle franchise depuis 17 ans, donc c'est une grosse étape pour Blizzard, quoi.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un vrai défi pour eux. Et donc, vu, comme je disais tout à l'heure, vu leur passif, je pense qu'on peut leur faire confiance et en tout cas être optimiste. Alors ouais. Après, il ne faut pas l'être trop non plus,
ouais.
et il faudra juger sur pièce. Mais en tout cas, pour le moment, ça semble pas mal du tout.
D'accord. Donc, vous avez lancé les sites, les sous-sites Overwatch.
C'est déjà fait.
D'accord. Julien a déjà lancé le site.
Alors, moi, j'ai peut-être une petite réservation, en fait. C'est que, bon, actuellement, dans la communauté des gens qui jouent au jeu Blizzard, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui jouent à presque tous les jeux, en fait. Qui jouent à WoW, qui jouent un peu à Diablo, peut-être un peu de StarCraft, Hearthstone, quasiment sûr. Et là, ce dont j'ai peur, c'est qu'avec une nouvelle franchise, qu'en fait, on ait une communauté en fait, qui se scinde un peu. C'est-à-dire que des gens qui vont jouer que à Overwatch, par exemple, et qui ne viendront pas sur les autres jeux, en fait. Enfin, nous, les sites comme les nôtres, c'est des sites qui comptent, en fait, sur des gens qui jouent pas tous les jeux, mais à plusieurs jeux Blizzard. Alors, bon, attendons de voir, mais c'est vrai que ça m'inquiète pas, mais bon, à voir.
C'est vrai qu'avec l'extension de l'écurie des jeux Blizzard, bah ça risque d'amener. Et la communauté est très forte chez les jeux Blizzard. Donc, d'ailleurs, ça, pardon.
Oui, un truc qui vient à l'esprit, c'est enfin très certainement qu'on verra les héros de Overwatch dans Heroes of the Storm à terme.
C'est possible, oui, c'est sûr. Oui. Une chose dont je voulais parler rapidement aussi, c'est l'étendue maintenant, effectivement, comme tu l'évoquais. De l'écurie des jeux Blizzard, c'est-à-dire qu'on a un MMO qui a 10 ans mais qui reste quand même le MMO le plus populaire et le plus joué au monde, un jeu de stratégie en temps réel, StarCraft, qui est là aussi extrêmement populaire, même si on n'est pas dans les hauteurs de ce qu'on avait dans les années 90 ou au début des années 2000, un jeu de cartes de stratégie, hack and slash avec Diablo, qui aujourd'hui avec Reaper of Souls est reconnu comme le summum du genre, un MOBA, team brawler, qui commence à gagner lui aussi ses lettres de noblesse, qui est, on le voit monter petit à petit sur Twitch, etc. Et maintenant un FPS. Moi, quand je travaillais dans la société encore, je me disais, mais c'est quand même assez unique. Et là, on revient à cet aspect analyse. Pour une société, une seule société, d'avoir, sans recours à des studios indépendants ou des gens en dehors de la société, d'avoir autant de types de jeux différents qui sont, alors on les aime ou on les aime pas, mais généralement extrêmement réussis et de l'avis de la presse et de l'industrie et des joueurs, des jeux extrêmement léchés et bien conçu dans une même société, quoi. On parlait dans l'épisode précédent de Nintendo qui avait sa version de différents types de jeux. Alors le jeu de plateforme avec Mario Bros, enfin le jeu de plateforme, le jeu de cartes, le jeu de combat, etc., etc. Et c'est donc les Nintendo semblent faire leur version de tous les jeux type console. J'ai presque l'impression que Blizzard est en train maintenant de faire leur version de tous les types de jeux plutôt PC. Même si, d'ailleurs, Overwatch, il est possible qu'il arrive sur console.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu parles de PC, mais on voit avec Reaper of Souls qui est arrivé sur les consoles de nouvelle génération. Mm. Et on a bien senti que, lors de la conférence, quand quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on a une bonne chance de voir arriver Overwatch sur console ? Et ils ont dit, moment, on a annoncé le PC.
Ouais.
Donc, c'est bien ce que ça veut dire.
Ouais. Et c'est vrai que on est... sur je sais plus ce que je voulais dire, FPS, Blizzard, c'est des jeux, oui, donc ce type de jeu qui est plutôt traditionnellement un jeu PC, FPS, les vrais PC, même si c'est vrai qu'aujourd'hui Call of Duty, Destiny, Halo, bien sûr, c'est aussi sur console. D'autres réflexions sur le sujet, ou on est au bout de nos discussions? pense qu'on y est arrivé. Une impression générale sur cette BlizzCon 2014 par rapport aux autres, vous qui êtes souvent là.
Bah, moi, je dirais que pour le moment, elle est riche en annonces.
Ouais, c'est donc sûr ça, que on n'a jamais vu autant d'annonces. Quoi.
Non, effectivement, ils avaient promis une BlizzCon 2014.
Un bon cru
et c'est réussi pour le moment, effectivement. Donc là, maintenant, moi personnellement, j'ai hâte d'aller essayer les jeux.
Ouais.
Et de voir également les conférences de demain et puis de me balader un peu dans le salon, ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire.
D'accord.
Pareil, j'ai vraiment envie de tester les jeux. Overwatch, ça m'attire énormément. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et puis il y a quelques nouveautés cette année à BlizzCon. Il y a l'ouverture de l'arène StarCraft, qui est une cinquième partie. Je sais pas si vous êtes allé la voir, mais non. C'est incroyable. Elle est vraiment magnifique.
C'est
l'arène StarCraft,
ah oui.
Là où les championnats se déroulent. Incroyable, vraiment à voir. C'est gigantesque, c'est rond, enfin c'est très très beau.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé d'e-sport, mais la BlizzCon c'est aussi l'occasion de faire tous les championnats des jeux Blizzard, enfin StarCraft, Hearthstone et même World of Warcraft.
Tout à fait.
Bon, moi c'est que ma seconde BlizzCon, donc j'ai un peu moins de recul. Alors l'an dernier j'avais assisté à quasiment tous les panels, et là cette année j'ai plutôt essayé de me concentrer. Je suis allé regarder les championnats surtout, et j'ai essayé de jouer le plus possible. Donc en fait c'est vraiment une BlizzCon très différente pour moi, parce que j'essaye de m'amuser et d'en profiter, parce qu'en fait souvent ce qu'on entend dans les panels on va le relire le soir ou dans les jours qui suivent, donc c'est pas non, moi j'ai vraiment essayé de jouer,
de
m'amuser et d'en profiter.
C'est vrai qu'il y a quoi, 15-20 000 personnes,
25 000
qui viennent ici pendant deux jours et qui sont tous des fans de jeux Blizzard. Je pense que sur, au-delà de la question des fans de jeux Blizzard, moi les premières impressions que j'avais eues quand j'étais venu à une BlizzCon, c'était cette impression très bizarre que dans notre vie de tous les jours, on est fan de jeux vidéo, mais notre entourage n'est pas aussi connecté que nous à cet univers. Et puis là, on vient dans cette convention et tout le monde est aussi fan que nous. Donc, on peut parler de tel ou tel jeu. Alors, généralement des jeux Blizzard, bien sûr, mais pas que. Et tout le monde comprend, tout le monde sait de quoi on parle. Les gens, on dit un truc et puis les gens te regardent et sourient. C'est vraiment un sentiment étrange et une sensation assez unique. Que je pense qu'on les retrouve dans des trucs comme la Comic-Con ou ce genre de choses, mais là, pour un éditeur, c'est particulier, quoi.
C'est là où tu te rends compte que tu joues trop, en fait.
Et moi, dans ma nouvelle vie, je pense que ça va pas aller mieux. Bon, bah écoutez, messieurs, je vous remercie très chaleureusement d'avoir été présents pour ce deuxième pré-pilote du rendez-vous jeu. Avant de conclure, je vais quand même vous proposer de dire à nos auditeurs où ils peuvent vous retrouver sur Internet, à commencer par le vénérable Judge Heap, Lançois.
Vous pouvez me retrouver sur judgeheap.com, donc J-U-D-G-E-H-Y-P-E, et puis avec le même pseudo sur Twitter, Facebook ou Google+.
Super. Emmanuel ?
Bah moi c'est le même site en fait, je suis son esclave, donc je vais dire la même chose. Vous pouvez me retrouver sur judgy.com pendant les BlizzCon.
voilà, deux jours par an.
C'est ça.
Avec tous les détails sur toutes les annonces, tous les panels, tous les
exactement,
jeux, etc.
Ouais.
Damien ?
Et donc ben pour moi icevines.com, www.icy-veins.com.
Et tu peux nous dire les jeux que vous couvrez justement, plus
alors,
précisément.
Donc Hearthstone et World of Warcraft. D'ailleurs, on a récemment recruté un nouveau, contributeur pour Hearthstone. Et là, on a commencé Diablo 3 au mois de septembre, mais on va finir après la BlizzCon. Il nous manque encore quelques classes. Et je pense que début 2015, on va partir sur Heroes of the Storm. Mais en fait, dès que la close bêta commence... on se lance.
Vous allez vous lancer. Donc des guides effectivement très précis et très spécifiques sur Icy Veins, en anglais par contre, uniquement.
Oui, en anglais.
C'est ça. Bah merci à tous les trois. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, vous le savez. Et puis, bien sûr, frenchspin.fr pour les versions françaises des podcasts. Il y en a d'autres que vous pourrez découvrir là-bas. Des podcasts sur la tech, sur les apps et sur d'autres petites choses aussi. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du rendez-vous jeu qui sera disponible, j'imagine, vers la fin novembre, quelque chose comme ça, et qui là inaugurera le début des vrais épisode du rendez-vous jeu avec une analyse et un résumé de l'actualité classique du jeu vidéo toutes les deux semaines. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Ciao à tous.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.